Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Le livre de l'Exode tient une place très importante dans l'Ancien Testament et nous aide à mieux comprendre l'œuvre de Jésus-Christ et la raison de la foi chrétienne. De ce fait, nous allons consacrer du temps à l'étude de ce livre pour comprendre le message qu'il nous adresse aujourd'hui. Pour commencer, Uli va nous rappeler où nous en sommes dans le récit du livre de l'Exode. Uli, bonjour.
Merci Hélène et bonjour à tous. Depuis un certain nombre de générations, le peuple d'Israël vit en Égypte, où il souffre de l'autorité tyrannique du Pharaon. L'esclavage, les travaux forcés et la brutalité sont son lot quotidien. C'est dans ce contexte que Dieu a choisi Moïse et son frère Aaron, car il veut les utiliser pour libérer son peuple de l'oppression et le conduire vers la terre promise. Tous deux sont déjà allés voir le Pharaon pour lui demander de laisser le peuple partir. Or, le Pharaon s'est opposé à cette requête. C'est pourquoi Dieu commença à affliger le Pharaon et son peuple, les Égyptiens, en les accablant avec une série de fléaux dévastateurs. La dernière fois, nous avons parlé du premier fléau. Aaron avait étendu son bâton vers le Nil et l'eau du fleuve s'était transformée en sang.
Dieu envoya 10 fléaux sur le pays d'Égypte, car le Pharaon refusait obstinément de laisser le peuple d'Israël partir. Dans un premier temps, Uli va énumérer chacun de ces fléaux. Puis, Emmanuel nous lira le récit du 9e et avant-dernier fléau.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, lors du premier fléau, le Nil se changea en sang. Pour le deuxième fléau, Dieu envoya une invasion de grenouilles. Pour le troisième fléau, la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Pour le quatrième fléau, un formidable essaim de mouches venimeuses pénétra dans le palais du Pharaon, dans la demeure de ses hauts fonctionnaires, et toute l'Égypte fut ravagée par les mouches. Pour le cinquième fléau, l'Éternel intervint contre le bétail qui était dans les champs. Il leur envoya une grave épidémie. Tout le bétail des Égyptiens périt. Pour le sixième fléau, Moïse prit de la cendre d'un fourneau et il se présenta devant le Pharaon. Moïse lança la cendre vers le ciel et hommes et bêtes furent couverts d'éruptions évoluant en ulcères purulents. Pour le septième fléau, l'Éternel fit tomber la grêle sur l'Égypte. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tous ceux qui se trouvaient au champ, hommes ou bêtes. Pour le huitième fléau, l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays tout ce jour-là et toute la nuit. Le lendemain matin, le vent avait amené les sauterelles. Elles dévorèrent toute la végétation, tous les fruits des arbres qui subsistaient après la grêle, de sorte qu'il ne resta aucun brin de verdure, ni aux arbres, ni dans les champs de toute l'Égypte. Pour le neuvième fléau, nous allons céder la parole pour la lecture du livre de l'Exode, chapitre 10, les versets 12 à 29.
L'Éternel dit à Moïse, « Lève la main vers le ciel et que l'Égypte soit plongée dans les ténèbres de sorte que l'on doive y tâtonner. » Moïse étendit la main vers le ciel et le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques. Pendant ces 3 jours, on ne se voyait plus l'un l'autre et personne ne bougeait de l'endroit où il se trouvait. Par contre, il y avait de la lumière dans les lieux habités par les Israélites. Le Pharaon fit convoquer Moïse et lui dit « Allez rendre un culte à l'Éternel. Vos enfants pourront vous accompagner. Seuls, votre petit et votre gros bétail resteront ici. » Moïse répliqua, « C'est toi-même qui nous fourniras les animaux pour les sacrifices et les holocaustes à notre Dieu. Et en plus, nos troupeaux nous accompagneront. Pas une bête ne restera ici, car nous choisirons dans notre cheptel des victimes pour les offrir à l'Éternel notre Dieu. Tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne saurons pas nous-mêmes ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. » Mais l'Éternel rendit le cœur du Pharaon obstiné, de sorte qu'il refusa de laisser partir le peuple. « Va-t'en d'ici, cria-t-il à Moïse, et prends garde. Ne reparais plus jamais en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Moïse répondit, « Tu l'auras voulu, je ne reparaîtrai plus en ta présence. »
Merci Emmanuel. En fait, Moïse et le Pharaon ne se reverront plus, car Dieu allait envoyer un dernier fléau, le plus terrible de tous. Uli va nous faire des commentaires sur les 8 fléaux que nous venons d'énumérer.
Chacun de ces fléaux représente des catastrophes naturelles qui auraient pu affliger le pays d'Égypte. Toutefois, en cette occasion-là, il est clair que ces catastrophes étaient d'origine divine. Selon le texte biblique, avant chaque fléau, Dieu annonce soit à Moïse, soit à Pharaon ce qu'il va accomplir. De plus, l'ampleur, l'intensité et l'impact de chacune de ces catastrophes dépassent de loin ce que les Égyptiens ont l'habitude de subir. Alors, il ne peut y avoir aucune ambiguïté. Dieu est intervenu pour secouer le Pharaon et son peuple. Et comme je l'ai dit la dernière fois, Dieu dévoila sa toute-puissance et sa souveraineté sur le monde naturel. Aujourd'hui, je voudrais surtout revenir sur l'enjeu spirituel qui se cache derrière cette série de fléaux. En fait, on peut affirmer que chaque fléau vise à démontrer l'impuissance d'un Dieu égyptien différent. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, se révèle comme celui qui est le Tout-Puissant, celui qui est incomparable, celui qui réduit à néant le pouvoir des idoles. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de donner le nom de l'idole égyptienne visée à chacun de ces fléaux, mais je vais toutefois choisir le 9e fléau à titre d'exemple. Nous apprenons que le pays d'Égypte fut entièrement plongé pendant 3 jours dans les ténèbres opaques. Les gens ne pouvaient absolument plus voir où ils allaient. Il est probable que la cause de ces ténèbres était due à une tempête de sable d'une grande ampleur. Mais si cette obscurité représentait une catastrophe naturelle, nous savons que Dieu en était la cause. Cependant, un enjeu spirituel prend racine derrière ces longues journées d'obscurité. Les Égyptiens révéraient un dieu nommé Ra. Il était probablement le dieu le plus important et le plus révéré de tous les dieux d'Égypte. Il était le dieu du soleil. Le voyez-vous? Pendant 3 jours, le soleil n'a pas brillé sur les Égyptiens. Il n'y a pas eu de lumière. Or, Ra se montrait impuissant devant cette catastrophe et le dieu d'Israël, le Dieu révélé dans la Bible, prouve une fois de plus qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est souverain pour sa création et qu'il règne au-dessus de tout autre soi-disant Dieu et toute puissance spirituelle. À travers ces fléaux qui s'abattent sur le pays d'Égypte, Dieu renversa une à une les idoles égyptiennes qui s'avèrent être d'une faiblesse inattendue. Ces idoles ne pouvaient rien faire pour empêcher ou pour atténuer les catastrophes qui déferlaient les unes après les autres sur les Égyptiens. En renversant ainsi les idoles égyptiennes, Dieu se présente comme le Tout-Puissant, celui qui secoue les fondements égyptiens bâtis sur l'idolâtrie. Ces gens devaient se demander Pourquoi se confier en des dieux qui ne peuvent rien pour nous? Pourquoi révérer des dieux faibles qui ne font rien pour nous défendre?
Merci Uli pour cette leçon très claire et importante. À présent, Yann va poursuivre sur ce même thème en explorant sa pertinence dans notre vie de tous les jours.
Encore de nos jours, et dans certaines régions du monde, les gens révèrent ou craignent des soi-disant dieux ou des esprits de la nature. On recherche la protection de ces dieux. On cherche à manipuler ces esprits pour obtenir leur faveur, afin de vivre par exemple la réussite d'un projet, de voir ses champs fertiles ou sa femme féconde, ou de bénéficier d'une guérison. Le message à retirer du livre de l'Exode est clair. La pratique de ce genre d'idolâtrie est vaine et inutile. Une telle foi s'appuie sur de mauvais fondements. Il est préférable de se tourner vers le Dieu qui se dévoile tout au long du livre de l'Exode comme le Tout-Puissant, comme celui qui est réellement le maître de la création. En un instant, Dieu peut mettre à nu la faiblesse et l'impuissance des idoles. Combien il est sage alors de se réfugier en lui et d'attendre son secours bienveillant. Cependant, la Bible enseigne aussi que l'idolâtrie est une attitude de cœur qui peut aller bien au-delà de la simple crainte des dieux de la nature ou des esprits maléfiques, car peut devenir une idole toute chose qui nous rend esclaves. Où vous tournez-vous quand la vie est difficile? En quoi mettez-vous votre confiance pour régler les problèmes qui se dressent sur votre chemin? Certains pensent que la poursuite des richesses leur apportera le bonheur et réglera tous leurs problèmes. D'autres cherchent un refuge dans les relations sentimentales ou sexuelles illicites. D'autres encore pensent trouver un réconfort dans l'alcool. Certaines choses offertes par le monde sont bonnes et nous pouvons les utiliser. D'autres, par contre, sont mauvaises et à rejeter. Cependant, même les bonnes choses peuvent prendre une place trop importante dans notre vie, au point de nous éloigner de Dieu. Une idole est simplement toute chose ou toute personne qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Le livre de l'Exode nous montre que Dieu est capable de nous secouer et de renverser nos idoles, pour nous prouver qu'elles sont bien faibles et qu'elles ne nous satisferont jamais. Alors aujourd'hui, détournons-nous d'elles et mettons toute notre confiance en Dieu pour l'adorer lui seul.
Merci Yann pour cette leçon importante.
Nous serons de retour la prochaine fois pour continuer notre étude sur le livre de l'Exode. Nous parlerons notamment de l'attitude de Pharaon, alors que son pays subissait cet enchaînement de catastrophes naturelles. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir.
Au revoir, et que Dieu vous bénisse.